Bonjour et bienvenue sur FMR, il est midi, nous sommes le samedi 30 septembre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui ?
Maintenant !
Le supplément week-end avec l'actu BD, cinéma, DVD, télé et un peu de baston quand même sur les bords.
Suivi de...
Ça c'est du sport, c'est à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires, de l'infirmerie et des ligues officielles.
Et ensuite...
À 15h du mix avec du reggae, avec Zarma Farai à 17h, normalement c'est évident du punk. À 20h, la Cetero Experience et de l'électro qui tâche pas mal. À 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro qui retourne. Et à 23h, eh ben, Breakbeat Experience et la Drum and Bass jusqu'à... Oula, je sais pas à quelle heure ils vont en s'arrêter.
5h du mat.
Oui, à peu près. Ouais, bon, enfin, en général, faut tenir, quoi. Et 5h du mat et tout. Boum, pa, boum, pa, boum, pa. Enfin, bon, moi, je suis capable de les tenir. Mais bon, vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin. Et on continue sur www.radio-fmr.net.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Bonjour Thomas.
Salut Xav, salut
Bonjour Dus. Bichepin, ouais. Allez, tout le monde est bien bouclé sur sa ceinture, là on décolle là. Ouais. Ça va, pas trop agressif le nouveau jingle là, tout.
Ah non, ça pète bien, ça va.
Ça envoie, hein, ouais. Ça pète bien, ouais. Qui ne saute pas, peut-être pas toulousain, hein, je pense.
Ça nous réveille aussi, ouais.
Ouais, bon, c'est pas... Je crois qu'un jour on va finir par avoir des emmerdes là-dessus, mais bon. Je sais pas, après tout on s'en fiche un peu, hein. Enfin bon, vous écoutez le supplément week-end où on va continuer à parler effectivement, bien évidemment, du printemps de septembre et avec pas mal de bandes dessinées japonaises et plein d'autres choses. Enfin vous allez voir, programme assez complet. You, c'est parti, on envoie la sauce.
Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate this air to go around saga. Got a launder, my karma, 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 karma,
Do you?
Battle Flag, The Low Fidelity All Stars featuring Pigeon Heads, ouais, en MC. Ah, cette fois-ci, je n'ai pas pris de l'album, je l'ai pris de la compilation We Are Skint, qui elle aussi est sortie depuis un bail. Et comment dire, oh, ça fait une belle ouverture qui claque bien là, avec notre nouveau générique d'ouverture qui, à mon avis. Ouais, non, on va pas en rajouter. Ça, donc, du sport est en train de se caler avec son micro. Ça va, du sport? Du sport. Hein?
Oui.
Ça va, pas trop intimidé?
Par quoi?
Non, parce qu'on a pris un petit caméscope familial et donc, on risque de tout.
Ouais, quand tu parles de familial, faut le dire vite, quoi.
Ouais, bon. Donc voilà, ceci dit, on va vous parler du printemps de septembre, on va parler aussi de manga, puisque tout à l'heure, je vais vendre la mèche, j'étais pas au courant, c'est du sport qui m'a fait remarquer qu'il y avait donc José Luis Munuera et Hiroyuki Oshima qui sont tout à l'heure en dédicace au Vagin Megastore.
Avec Morvan, non?
Non, Morvan ne vient pas.
À quelle heure ici?
Dans ce cas, ils se sont plantés, parce que je vais t'avouer que j'ai repéré l'information, parce que au boulot, je bossais conjointement sur un chantier avec le peintre qui lui avait sa radio, et donc sa radio était branchée sur une
station commerciale. Station
commerciale de Daube, quoi. Et qui est partenaire donc de cette opération, on va dire.
Ouais, enfin plus exactement, ce qu'ils ont le même actionnaire, ils sont pas franchement partenaires, je vois pas trop en quoi. On en parlait tout à l'heure. On va aussi parler du printemps de septembre, mais pour en revenir à
juste pour en revenir à la dédicace, c'est à quelle heure?
Je sais
à
pas.
À 15h. 15h, 15h30 me semble.
Ouais, c'est les horaires habituels, quoi. Sachant qu'en plus, en même temps, donc il y a printemps de septembre, on a fait une visite un peu des expos, ce qu'on avait promis la semaine dernière, on l'a fait tout à l'heure. On y sera tout à l'heure en direct enregistré. Et non, c'était non, elle était nulle la blague, d'accord.
Oui, enregistré direct. Oui. Vous en avez pas rêvé, mais on l'a fait quand même.
Ok, mais sinon, à part ça, de quoi peut-on causer? Sinon que les bandes dessinées se font petites, puisque Casterman a édité cet été dans Le Figaro des Tintins et des Corto Maltese, et on les trouve en librairie, donc à prix réduit, format A5 à peu près. Les Tintins sont cartonnés.
Oui, c'est comme des grands albums, mais en petit.
En petit. Tout est petit dans notre vie. Mini, 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 mini. Alors, ce qui est très amusant, c'est ce que nous a dit un BD libraire spécialisé, qu'on ne citera pas, Fred, où est-ce qu'il bosse. Il nous a dit pourquoi ils ont fait ça.
C'est pour attirer le public des lecteurs de manga.
Déjà, je trouve que l'album est un peu grand, il n'est pas assez épais et il est en couleur.
Oui, et puis tu te rends compte, les lecteurs de manga, ils se disent mais c'est quoi, c'est l'album au format comique là, c'est trop gros, mais on ne sait pas comment les tenir. Ils se sont dit tiens, on va leur donner des petits, comme ça ils ne seront pas dépaysés.
coup amusant d'ailleurs, puisque Delcourt, eux, fêtent les 20 ans de la maison d'édition, Guy Delcourt Productions. Et ils ont sorti des 3-4 premiers tomes reliés, par exemple, de Cap et de Croc, ou encore celui que j'ai amené, Carmen McCallum. Donc les 3-4 premiers tomes de la série, aussi en format A5, comme ça, à un prix réduit, ce qui est plutôt agréable, après tout.
C'est agréable, voilà. Et ça nuit pas beaucoup à la lecture, puisque c'est tout à fait lisible.
C'est vrai, c'est étonnant. La lisibilité, moi, je m'attendais à pied, puisque en fait, c'est prévu normalement pour les grands formats.
Hein, ouais, alors moi, j'ai commencé à feuilleter les Tintins que je me suis acheté hier, mais là, par contre, la ligne claire, elle en prend un tout petit coup, quand même, un petit. Et
c'était lequel?
Les phylactères. J'ai pris le Lotus Bleu et Tintin au Congo, que j'avais jamais lu. Congo, non, j'avais jamais lu celui-là. Moi, j'étais plutôt Astérix. J'étais plutôt Astérix, moi.
Tu y découvriras les vertus d'une leçon de mathématiques qui remplace une leçon de géographie. Vos ancêtres, les Belges. ces braves petits Congolais. Oui, après tout, pourquoi pas. Mais ceci dit, Thomas et moi, on a pris notre petit enregistreur et armé de notre mauvaise foi, on a dit qu'on allait se faire le printemps de septembre. On l'a fait un peu vite. À notre sauce.
Oui, mais spontanément, et puis on a enregistré nos réactions en direct sans s'être concerté avant, donc ça a le mérite de. Voilà, on se prend pas la tête à analyser, on vous fait part de nos impressions sur le fil du direct.
Et donc on a commencé par le cloître des Jacobins, si je me souviens bien, donc voici ce que l'on y a vu.
En différé de la 5e édition donc de printemps de septembre, avec comme thème Ligne brisée. Salut Thomas.
Salut Xavier.
Eh ben
Je crois qu'il y a un peu d'écho là quand même.
Tu crois un petit peu?
un peu, ouais.
Et ça doit être l'ambiance église, je sais pas. Bah oui, c'est un peu normal puisqu'en fait on est au cloître des Jacobins. Alors déjà, la première impression quand on arrive au cloître des Jacobins, c'est...
Merde, ils ont pas fini d'installer.
C'est marrant, c'est une impression qu'on a régulièrement eue. Et là, ça tombe bien parce que c'est vrai qu'on est dans une expo qui est assez angoissante, je dirais, qui rappelle un peu les histoires de il y a des bombes en ce moment qui se baladent dans les avions, que cela soit des liquides explosifs ou des ordinateurs portables. Alors déjà, ça commence sur la droite, on a une espèce d'immense cabine de douche à base de...
Non, non, c'est pas une cabine de douche, c'est des chaînes avec du verre brisé comme si Jackie Chan était passé par là mais qu'il avait pas pu casser la vitre.
Et donc là, il a décidé de passer au-dessus. C'est une symbolisation, à ce qui paraît, du cube et de l'événement très masculin de l'architecture.
C'est en fait une métaphore du système machiste, comme quoi les hommes emprisonnent les femmes, et cette cage, en fait, représente le machisme de notre société.
Juste en face, quand on arrive, eh ben, on a c'est des espèces de bacs dans lesquels on met les valises avant de les mettre dans les avions. Complètement explosé avec des valises, on se dit oups, il y a eu quelque chose. On se croirait dans la deuxième saison de Lost.
Oui, ou dans Banzai avec Coluche.
Enfin, on va pas y arriver jusqu'au bout. Enfin bon, tout ça, effectivement, ça donne justement le côté encore plus angoissant, complètement démonté, déstructuré.
Oui, tout à fait, ça souligne un peu la période de trouble dans laquelle nous vivons, mais on va pas trop s'avancer sur le contenu de l'exposition puisque nous n'avons pas encore tout vu.
En fait, on découvre absolument, littéralement, au fur et à mesure, c'est comme d'habitude, vous savez, on fait de l'à peu près culturel, et ça, vous nous connaissez pour ça. Thomas, là, je crois qu'on a loupé l'accident.
Oui, tout à fait. Nous sommes en présence de deux voitures totalement explosées avec la vitre complètement brisée et un siège qui a volé en éclats dans le pare-brise.
Attends. Ça, c'est quand même le drame de la route. Alors déjà, ce sont deux voitures anglaises. Hein, on reconnaît par la conduite, forcément, à gauche. Mais en plus, c'est catastrophique, tu vois. Regarde, le respect des distances de sécurité. En plus, la voiture devant, le L par terre, ça veut dire que c'était un apprenti conducteur. Le respect des distances de sécurité. Encore une fois, on fait une expo totalement sécuritaire.
D'ailleurs, le titre dit lui-même ce que nous venons de dire, puisque ça a vachement de rapport avec la sécurité routière, Xavier.
Fuck sex, y a pas à dire. Forcément, avec une gigantesque affiche, avec un nu féminin, il me semble, avec écrit sur le t-shirt, complète arsehole, trou du cul complet. Y a pas à dire. En France, le côté scatologique, on passe complètement à côté.
Là, je suis sans voix.
Non, t'avais même pas remarqué.
Si, mais bon, moi, tu oublies que j'ai fait les Beaux-Arts, donc comme on n'est pas loin, en fait, c'est un peu, on va dire, un petit peu déjà vu ici.
Alors, il n'y a pas à dire, effectivement, c'était un nu féminin, c'était celui de l'artiste.
Oui, heureusement qu'on a lu la biographie après.
Vous savez, comme d'habitude, on fait dans à peu près. Donc, il s'agit de Sarah Lucas, qui est une artiste anglaise, qui fait énormément de provocations, justement, sur le conflit des sexes.
Oui, en fait, on peut dire qu'elle fait du cul avec des objets courants, avec un canapé, des lampes, voilà, un néon, des bagnoles. Voilà, bon, ça reste du cul, quand même.
Bon, ça reste présentable, quand même, entre nous. Dans un cadre institutionnel, tu mets ça dans une église, non, c'est pas du tout désacralisé, un cloître.
Oui, et puis en plus, on voit bien les poils sur la grande photo.
Bref, inutile de vous dire, quand on était ressorti, on vous a coupé quand même les blancs qu'on a fait, et on s'est dit, bon, tout bas, on va voir ailleurs. Hein.
Oui. Alors, attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
J'avais dit, tiens, si on allait à la maison éclusière.
Ah
là.
Oui, alors, sauf que on avait...
Cathy de Manchot, depuis ses premiers objets aux connotations ouvertement sexuelles et...
Encore du cul.
Bon, d'accord, ok. EDF, le Bazac, John Bock puise son langage dans l'action. Ses performances à la fantaisie débridée donnent lieu à des films et des installations. Bon, ça, on verra ça peut-être plus tard, je pense.
Mais de toute façon, en plus, on n'avait pas tout vu au Jacobin. On est passé à côté d'une installation vidéo, d'après ce que j'ai vu sur le programme.
Ouais, et ensuite, on est allé...
À l'espace Croix-Baragnon. Ah, mais ça, c'était hier soir.
Ça, c'était hier soir, et entre autres, et on était allé à l'espace Écureuil.
Espace Écureuil, Thomas te fait pas refiler un livret A, hein, en passant. Alors on va voir donc l'expo de Cathy Weiss.
Et... Non, attends, moi j'ai rien compris au texte, attends, je reste là. Donc c'est apparemment une artiste de Belfast, Mais alors si tu regardes bien le texte, il y a marqué c'est une figure de proue, qu'elle est indépendante, qu'elle est irlandaise, qu'elle a été primée à la Biennale de Venise, mais en fait, elle refuse l'establishment, elle esquive la rhétorique féministe militante habituelle. En fait, on te dit tout ce qu'elle n'est pas. Ah si, elle parle de l'identité féminine. Voilà, en fait, elle parle de la femme. Donc, on se retourne. Qu'est-ce que tu vois, Xavier ?
Je vois une fille avec un casque moto qui est échappée d'un clip de House, une autre avec un truc blanc devant, on croirait qu'en fait elle a fait figurer dans une bande-annonce de MTV, des saladiers par terre qui n'ont pas été nettoyés depuis au moins un mois et qui ont dû servir, je sais pas, pour faire apparemment de la pâte à crêpes, et ah oui, un bac à sable, sans sable, pathétique.
On va s'approcher de plus près peut-être. Alors, il n'y a pas que les saladiers mal nettoyés, il y a aussi une bougie.
Un support de bidet.
On dirait qu'elle a un fil qu'elle laisse pendre d'un de ses doigts. Effectivement, ça fait très MTV le panneau qu'elle a sur la tête. Mais ce n'est pas un lecteur qu'on a là, dans le bac à sable. D'accord.
Fait partie de l'expo, là, c'est sûr. Il y a une poussette. Alors, à la limite, je comprends, un casque moto, quand on tient une poussette, c'est clair qu'un gamin, quand ça a faim, ça pleure.
Et qui dit pleure, dit... Clac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un casque Choé.
Oui, je l'ai dit. Thomas, il fallait pas citer la marque.
Ah mince. Donc tu ne l'avais pas dit.
Oui, non mais attends, ça tu le sais quand même, ça fait partie des points essentiels radio. Donc je rappelle que donc on est en train de visiter une expo d'art.
Dans un espace écurie.
Ça s'appelle une publicité. Évidemment, c'est vous dire quand même le côté de mauvaise foi que l'on a eu vis-à-vis de certaines œuvres. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on est allé à Croix-Baragnon, on a été plutôt impressionné. Là, il y avait quelque chose qui était pas mal.
Oui, mais dans l'ensemble, là-bas, ils se prennent pas la tête. Hein. C'est des trucs très propres à chaque fois, très carrés. Moi, j'aime bien ce qui passe, au contraire de parfois ce que passent les Jacobins, qui est un peu prise de tête. Voilà, on s'agite la nouille en essayant de penser à ouais, c'est du cul génial, ouais, avant-gardiste, trop cool. Alors que à Croix-Baragnon, c'est des trucs carrés, des trucs propres. Les artistes, ils découpent pas des gruyères avec le cutter comme l'année dernière à l'espace écureuil. Là, non, là, c'est propre. Là, j'aime bien.
Donc il y avait une exposition assez, une installation assez intéressante. On entre en fait et comme disait Thomas, on a l'impression d'avoir un son THX qui vient de partout.
Oui, vous savez le.
C'est un artiste qui a proposé à des musiciens de l'Orchestre National du Capitole de s'accorder sur un la, celui du téléphone décroché. Et qu'il a démodulé, c'est-à-dire il fait varier. C'est prenant,
ouais. Et c'est intriguant. D'ailleurs, l'artiste s'appelle Laurent Montaron et il a non seulement fait cette installation sonore, mais aussi une vidéo qu'il a, enfin, même oui, un montage qu'il a fait. Je sais pas si ça a été tourné en vidéo. Je crois que c'était à la HD quand même, ouais. Parce que le rendu était très propre. Ça parlait de jeunes dans une espèce de lande désertique où ils s'essayaient à des jeux d'exténuation. D'après ce que j'ai compris, avec une boucle qui se répétait.
Oui, c'est assez étonnant.
Avec une caméra qui passait devant les végétations, l'usage de la mise au point, c'était propre. C'était vraiment nickel techniquement. Après, on aime ou on n'aime pas, mais là, cette boucle-là, franchement, bon, ça m'a pas déplu.
C'est vrai que ça nous a bien pris, surtout avec le son qui venait du rez-de-chaussée.
Voilà.
Donc voilà, on parlera de la suite la semaine prochaine, puisqu'il y a plein d'autres choses effectivement à voir. Il y a notamment la pièce la plus importante qui est
aux abattoirs.
Aux abattoirs. Et là, on ira peut-être cet après-midi, on y fera du son. Et puis voilà, on verra d'autres choses. Là, on va parler de bande dessinée, puisqu'il est midi 20 sur la poubelle des radios.
Jean-David Morvan est un scénariste plutôt prolifique puisque, entre autres, il a créé le personnage de Navis dans Sillage. Il a créé aussi pas mal d'univers qui sont proches du manga et de l'animation japonaise. Il s'en est jamais vraiment caché et il est très versé dans la science-fiction. Néanmoins, il nous le fait parfois de grosses surprises, celle de s'être associé avec José Luis Muñoz pour reprendre Spirou et Fantasio. On se souvient justement de la reprise qu'ils avaient fait sur Paris sous Seine, qui était plutôt étonnant. Là, le 49e tome et la troisième album, en tout cas, actif de Spirou et Fantasio vient de sortir. Et c'est Spirou et Fantasio à Tokyo. C'est aux éditions Dupuis que vient de sortir, comme d'habitude, donc les aventures de nos deux personnages, le groom et le journaliste. Et ils sont au Japon en reportage pour l'ouverture d'un gigantesque parc d'attractions reconstituant Edo. Edo, la capitale impériale qui changera de nom sous la restauration Meiji. Oui, c'est l'ancien nom de Tokyo, bande d'incultes. Une reconstitution incroyablement précise en parc à thème, construite en plein Tokyo. Mais les rumeurs courent sur la construction donc de ce complexe qui aurait été financé par la mafia et un enfant retenu en otage. Alors justement, pendant la conférence de presse, aura lieu une attaque de ninja qui ne semble pas avoir été prévue. Spirou et Fantasio vont soudain découvrir d'incroyables forces, donnant un aspect bien surnaturel qui dénote dans une mégalopole ultra-technologique, qu'on pourrait appeler Neo Tokyo. Bon, déjà le scénario va un brin vous surprendre. Et en plus, le dessin de Muñoz est largement plus appréciable que dans Paris sous Seine. Dans cet album, son trait jeté fait merveille, car il rappelle la dynamique manga. Et ce scénario est l'occasion rêvée pour rendre hommage à la bande dessinée asiatique. Le mélange est étonnant et très agréable à lire. D'ailleurs, le nombre de références dans les personnages notamment est un vrai bonheur. Quant à l'observateur attentif, il trouvera une technique inusitée depuis au moins, oula, dans les Spirou, depuis Yves Chaland, le tramage. Ah, ça remonte. Oula, du sport là. Les Yves Chaland là, c'est début années 80. Hein. Et déjà, c'était old school la manière dont il le faisait. Mais entre nous, voir nos deux héros sur la couverture maniant des armes, c'est plutôt inédit. Mais en guetta, là, on met vraiment le pied ailleurs. Guetta, pied. Oui, les guettas sont des sandales en bois qui. Ok, bon, elles marchent pas la blague. Ok, sorry ma scène. Et les deux auteurs, Jean-David Morvan et José Luis Muñoz, ont, à côté d'avoir fait donc le Spirou et Fantasio numéro 49 à Tokyo, et ils ont sorti un numéro 49Z, le guide de l'aventure à Tokyo, et c'est toujours chez Dupuis. Et dès les premières pages de ce livre, on a droit à des conversations entre le scénariste et le dessinateur. Ce qui nous laisse imaginer ce qu'auraient pu vivre nos héros. Car ce livre est un making-of plutôt original du premier album de Spirou, présenté à l'italienne et mêlant carnet de voyage, infos sur la vie japonaise et manga. Puis on y trouve notamment le premier chapitre de « Des valises sous les bras », l'histoire du Spirou adolescent qui rentre comme apprenti groom au Tokyo Mystic Hotel, où il se lie avec un chariste au nom de Fantasio. Bref, le petit Spirou est devenu grand et parti dans une très grande ville, Tokyo. Une aventure dans les canons de la manga, dessinée par un vrai mangaka, Oshima Hiroyuki. Un parti pris assez osé de proposer un personnage qui appartient à un éditeur franco-belge d'être pris par un des envahisseurs nippons. À tel point que dans le staff du Puy, il y a pas mal de hauts cadres actuellement en font une jaunisse. Oui, jaunisse, Japon, ok, d'accord, elle est nulle. Excusez-moi.
Baka.
Bon, Spirou entre dans la vie active et est dessiné en manga. Et alors ? Spirou a rajeuni, devient très dynamique. Fantasio aussi est montré sur un ton plutôt débrouillard. Et du Spirou ado, on attend plus finalement. On aimerait aussi que le Spirou très adulte de Machine qui rêve, c'était le dernier Spirou fait par Tom et Jeanry, soit développé lui aussi. Après tout, Spirou est un personnage protéiforme qu'un éditeur peut se permettre de faire vivre sur plusieurs plans au grand plaisir des lecteurs et des auteurs. Et il en a bourlingué depuis qu'un certain Rob Well, la fenêtre d'une peinture publicitaire. Et à côté de ces, à côté donc du Spirou manga de Morvan, Munuera et Ooshima, et ben est arrivé en même temps dans nos bacs un bouquin intitulé Culture manga de Fabien Tillon, c'est aux éditions Nouveau Monde Édition. Et bon, déjà il faudrait parler du manga en lui-même, c'est affilié aux Ozema Kimono, ce sont les grands rouleaux illustrés, et aux Ukiyo-e, qui sont des illustrations en général peu sages, peu pieuses. Et la manga, elle fait vraiment intimement partie de la culture japonaise, au point qu'elle est utilisée directement pour la communication institutionnelle. Faut dire aussi que la consommation de bandes dessinées n'a rien à voir entre le Japon et l'Europe, puisque toutes les tranches d'âge en lisent, avec une segmentation très très fine du marché. On peut vraiment parler de culture manga quand on sait quelle importance fondamentale ont ces images dérisoires, la traduction littérale de manga, dans la vie quotidienne de ce grand pays industrialisé et parmi les plus riches au monde. Bon, je vous vois tout ça, on vous l'a déjà expliqué, ça fait partie quand même, hein, ça fait partie des classiques hein, depuis que vous écoutez cette émission. Et peut-être qu'il est temps peut-être de parler de l'auteur Fabien Tillon qui a écrit dans Baudoil et a participé à l'émission Cult sur France 5. Sans compter sa participation aux bulles noires de nos concerts Paris-Goth Radio Libertaire. Un ouvrage n'apprendra pas grand-chose pour le fan très éclairé, mais culture manga reste très intéressant à lire sur les sujets comme l'influence japonaise et ses conséquences sur les bandes dessinées asiatiques, qu'elles soient de Corée du Sud, Hong Kong, la Chine, voire même de l'Inde. Ainsi que l'apport graphique fort qu'a amené la manga et la japanimation dans l'art contemporain. Ok. C'est écrit assez large, ça manque parfois d'illustration, et le spécialiste y trouvera des imprécisions. Mais le bouquin est plus qu'un livre est plus un livre d'initiation finalement. Pour les personnes qui ont des notions artistiques mais ont un peu du mal à rentrer dans la bande dessinée japonaise, ou pour les mangavores qui ne connaissent pas leurs fondamentaux et qui bouffent toute la journée du Chevalier du Zodiac ou du Dragon Ball Z. Ce livre amène un angle moins technique qui n'est pas désagréable. Et il mérite bien sa place aux côtés des ouvrages plus précis de Thierry Grosten, l'univers des mangas chez Casterman, et de Paul Gravitt, 60 ans de bande dessinée japonaise qui a été traduit l'an dernier. Fabien Tillon, Culture Manga, c'est chez Nouveau Monde Édition. Il est midi 29 minutes et 50 secondes sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end. Et nous allons passer à la publicité.
Coke?
Don't not look at me.
Well, girls, you know, I'm not one to gossip, but...
Oh, don't look at me like that. I can take it this time.
Well, Coke is what's happening, baby. You did?
Oh, look at you.
You took it. Who go better with fun, go better with you, go better with Coke. The real life one puts extra fun into you, you, and everything you do.
Comme tous les ans, les Toulouse Punkers se font leur festival. Alors du 4 au 7 octobre en ville, le chaos sera à l'honneur. Le 4 octobre à l'OTAN, Aggressive Agriculteur et Sarcostone. Le 5 au Vent du Sud, les Uncommon Men from Mars, Charlie Fiasco et Saturne. Le 6 octobre au Fairfield, les Flying Donuts, Dead Pop Club et Open Nightmare. Et enfin, le 7, au Vent du Sud, Diego Palavas, Brigitte Bop, Mondragon, Medef in a Babylon et Taugaru. Alors, si tu n'es pas encore au courant, sache que ça y est, le punk revient. Le festival Toulouse Punker en ville du 4 au 7 octobre.
trompé de jingle, c'était l'autre que je voulais passer. Et en fait, on a passé tout à l'heure Merci du Sport pour donc en guise comme ça d'ouverture des pubs, les The Shirelles.
Bah ouais. Une vraie pub radio hein, du début des années 60. Ouais, donc, je sais pas, t'as passé le numéro 1. Le dernier ou le premier, t'as passé
Le premier.
Eh bien, on passera encore le dernier un peu plus tard.
Hein, ou sinon la semaine prochaine.
Ouais, je vais pas ramener le coffret à chaque fois. Merde.
Bon, d'accord, ok. Ouais. Thomas, tu avais peut-être quelque chose à dire de ton côté pardon, du sport, oui. Du sport, tu voulais. Je t'ai coupé.
Une pub du début des années 60, donc par les Shirelles, hein, les girl groups les plus fameux avec les Supremes, avec les Shangri-Las et tout ça. Et c'était l'époque où justement on demandait aux artistes, hein, Elvis en a fait, enfin ils en ont tous fait, hein, pratiquement,
oui,
des pubs à la radio. Il n'y avait pas de régie publicitaire spéciale, hein. On demandait aux artistes de venir, de faire une pub, ils étaient rétribués, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et ça ajoutait du cachet. Hein. Bon, maintenant.
C'est le cas de le dire.
Maintenant, on voit Zidane qui balance des ballons d'un camion et tout. Bon, ça revient un petit peu à la même chose, si tu veux. Mais les cachets sont pas les mêmes.
Thomas, tu es plongé dans les lectures. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil au Fantasio.
Alors, les Fantasio, j'ai feuilleté rapidement, mais je pense que ça va valoir le coup d'œil de les lire un peu plus de façon approfondie.
Le bouquin est assez étonnant parce qu'il est édité à l'italienne et dedans on met les planches japonaises qui sont bien cernées par la décoration, par un petit texte explicatif, par la traduction. Et on a les planches originales avec leur lettrage, avec leur texte. C'est étonnant. Moi, je trouvais franchement l'initiative très, très, très sympa. Et c'est vrai qu'effectivement, en ce moment, chez Dupuis, il y a un gros débat en ce moment au niveau de la direction. Est-ce que oui ou non, on doit éditer un Spirou en manga? Est-ce qu'on doit continuer? Moi, je trouve que c'est dommage. Ce serait bête de passer à côté.
Sinon, là, ouais, je suis plongé dans la lecture de Culture Manga. Donc, je sais
de
pas.
De Fabien Tillon.
Ouais, alors, c'est écrit un peu gros, mais par contre, je pense que ça doit être intéressant, justement, puisqu'il y a un long passage où il explique comment on en est venu au manga, avec les quelques illustrations de Kusai et tout. Donc, pour expliquer un peu le background, je pense que ça peut être intéressant pour les jeunes qui connaissent que Naruto, comme tu disais tout à l'heure. Les Jeux Zodiac, c'est un peu plus 20 ans en arrière, si tu veux.
Ouais, mais il y a des abrutis comme. Des abrutis qui se baladent en t-shirt, Chevalier du Zodiac, Saint Seiya et tout ça. Hein, et qui...
Non, pas aujourd'hui.
Bon, pardon.
On m'a traité d'abruti, là.
D'accord, ok, on va régler ça juste après un superbe remix de Radiohead exclusivement dispo sur internet. C'est un truc complètement illégal. C'est un type qui fait une excellente reprise de Radiohead. On va vous expliquer pourquoi on le passe après, en fait, le morceau. L'album s'appelle Me and This Army et c'est H-Hate-M-E. H Hate Me, c'est absolument monstrueux, vous allez voir, c'est excellent.
Disco. Yeah, it's disco. So far, this is disco.
Thomas, qu'est-ce qu'on est allé voir au cinéma ?
On est allé voir une adaptation de une nouvelle de Philip K. Dick et ce morceau, enfin, il y avait du Radiohead dans le dans les crédits. Est-ce que c'était celui-là ? Je m'en souviens plus.
Non, non, ça c'est remix, c'est un nouvel album apparemment.
D'accord. Alors on est allé voir Scanner Darkly. Et alors, donc on n'a pas de jingle aujourd'hui, on va enchaîner direct. C'est un film de Richard Linklater, alors c'est un réalisateur vachement éclectique, peut-être qu'il vous dit rien ce nom, mais c'est lui qui a fait Rock Academy, qui a fait Before Sunrise, Before Sunset, il a même fait aussi un film appelé Waking Life. Alors je crois que, je sais pas s'il est inédit en France ou en tout cas il est assez méconnu, mais il expérimentait déjà le système de rotoscopie d'animation, enfin le rendu qu'il y a dans son nouveau film dont on parlera plus tard. Alors le pitch aussi il y a dans le film donc je peux parler du casting Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson et Winona Ryder, donc c'est du beau monde. Vêtu d'un complet brouillé qui masque son identité même vis-à-vis de sa hiérarchie, Bob Arctor est un agent des Stup infiltré dans le milieu des drogués afin de lutter contre les ravages de la substance M. Mais lorsque ses supérieurs lui ordonnent d'enquêter sur Bob Arctor qu'il soupçonne de trafic et de terrorisme, c'est une véritable descente aux enfers dans la schizophrénie et l'autodestruction que le même Arctor va entamer. Voilà, on te demande d'enquêter sur ta propre identité tout en sachant que c'est pas toi. Tu dois installer des caméras planquées dans ta maison. Il faut te, parce que tu vis avec d'autres gars dans ta maison, donc t'es obligé de te couper parfois au montage pour pas qu'on voit que c'est toi qui installes les caméras. C'est assez assez particulier. Et alors c'est assez intéressant puisque pour justement souligner le côté réalité un peu distordue, puisqu'il c'est que des mecs qui prennent la substance M qui altèrent un peu le cerveau et qui dissocient l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Justement, il a utilisé la technique de la rotoscopie. Alors c'est un procédé qui consiste à filmer avec des vrais acteurs en caméra normale, avec un rendu normal, sauf que tu retouches image par image avec un rendu un peu dessin animé, cel shading, un peu lissé. Sauf que là, ils ont apparemment développé un programme exprès pour éviter d'avoir à se taper 1h30 d'image par image. Ça aurait été absolument infernal. Alors justement, ce procédé, en fait, il souligne un peu justement les principes de réalité distordue. Alors, tu sais pas si c'est une divagation d'esprit ou si c'est vraiment la mémoire à lui qui commence à s'effriter. À un moment donné, il dit avec une voix off qui dit oui, avant j'avais une vie tranquille avec une vie de famille, des enfants et tout. Je me suis dit à quoi ça rime. On va exposer tout ça. J'ai divorcé. Puis à un moment donné, tu sais plus trop si ce qu'il t'a raconté c'est la vérité, est-ce qu'il s'est inventé, est-ce que justement c'est la drogue qui va finir ça avec un dysfonctionnement du cerveau. C'est assez particulier. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est tu sais pas trop à quoi t'attendre. De toute façon, Kadik, il a toujours fait des bouquins sur des dérives de l'identité, de la mémoire. On se souvient aussi de Total Recall, on sait pas si c'est totalement fantasmé tout le film, puisque ça se finit exactement comme le mec lui avait dit au départ. Donc on retrouve un peu ça dans toute l'œuvre de Kadik, et puis même dans Blade Runner, où on voit même si c'est pas mes souvenirs, alors qui suis-je voilà.
Est-ce un répliquant ?
Est-ce un répliquant ou non ? voilà, donc ça c'est les grandes qualités du film, mais en fait il y a un gros défaut, c'est que c'est vachement verbeux. Enfin, Xavier l'a vu avec moi, il pourra en témoigner, je pense que c'est une demi-heure trop long.
Je crois qu'à partir du moment où je commence à regarder ma montre au bout de 40 minutes de film, c'est qu'il y a vraiment un os.
En fait, c'est lié au casting qu'il a choisi. C'est que Robert Downey Jr. ou Woody Harrelson, tu sais très bien qu'ils vont cabotiner, qu'ils vont en faire des tonnes. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'ils avaient procédé surtout par un pro aussi. Et donc voilà, Downey Jr., c'est le mec qui est en roue libre. Alors il fait les gestes de partout, il parle de... C'est un film à la Tarantino, sauf que tu ripes aux éclats dans ton film parce que c'est un drame quand même. C'est sur les ravages de la drogue. Puis tu te fais chier quand même parce que c'est un peu redondant. T'as les personnages, ils sont plantés depuis le début. Et puis après, il y a certaines scènes qui ne font qu'accréditer l'image que tu avais de ces personnages. Alors c'est un peu ça qui est un petit peu chiant. Il y a juste aussi des défauts techniques concernant la rotoscopie. C'est que si bien quand c'est des plans fixes, les personnages se déplacent, donc c'est le rendu qui est retravaillé image par image, ça va. Mais à partir du moment où t'as les mouvements de caméra, ils sont obligés de le repositionner dans l'espace avec justement la caméra qui tourne. Et là, t'as des scènes justement de bagnole quand elles tournent et tout. Ouh là 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 là, on dirait qu'elles sont en lévitation. Et puis justement, on a croisé le même Fred de la célèbre librairie toulousaine dans la rue juste après avoir vu le film, et il nous disait mais pour moi c'est voulu. C'est que justement, ça participe aussi à la déconstruction de la réalité. Alors effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, mais vu le propos, ça passe. Voilà, c'est ça la grande force du film. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour ceux qui aiment Philip K. Dick, je pense que c'est assez fidèlement retranscrit par rapport à sa nouvelle Substance Mort. Xavier pourra en témoigner aussi, puisque toi tu avais vu en diagonale à l'époque, puisque tu dévorais pas mal de bouquins.
Il y a longtemps, mais je trouve que honnêtement, tout le monde se posait la question. Si cette nouvelle devait être adaptée, comment cela pouvait être fait? Effectivement, c'était la seule méthode. C'était soit le dessin animé, soit celle-ci, justement, celle du rotoscoping continu. Et je trouve que tous les défauts d'image, ils jouent énormément sur le côté. Au bout d'un moment, le spectateur se dit mais je sais plus où j'en suis, ça rajoute au malaise. Oui. Et là-dessus, c'est vraiment pas mal.
Et on a un truc qu'on a oublié de vous dire, c'est le complet brouillé, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le complet brouillé? C'est une espèce de combinaison qui enveloppe toute l'intégralité du corps de l'agent infiltré et qui va diffuser une espèce de diaporama de plein de banques d'images, de nez, de yeux différents dans les bases de données de la police. Et ça défile assez rapidement, ce qui fait que tu peux passer d'une scène à l'autre, il est en baggy, ensuite c'est un barbu costard cravate, etc. Ça défile à une fréquence de 10 images par seconde à peu près, donc c'est assez rapide. Et puis justement on peut pas imaginer ce rendu là par un autre procédé que l'animation.
Là dessus il n'y a pas à dire, c'est justement une réussite.
Voilà, malgré le côté verbeux et un petit peu trop long, on peut dire quand même que le film n'est pas trop raté. La fin est un peu différente du bouquin, puisque le bouquin se terminait vraiment de façon pessimiste à mourir. C'est que le personnage avait le cerveau complètement ravagé, c'était une épave, il avait plus ou moins réussi sa mission.
Il y a une grosse part d'autobiographie d'ailleurs dans la nouvelle.
Qui est repris dans le générique de fin, puisqu'en fait l'introduction...
La postface de Philip K. Dick est reprise
dans le générique. Et le générique qui lui-même repart en couille de temps à autre. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est vraiment fait exprès toutes les erreurs qu'il y a pendant le film.
Oui, ou alors ils se sont aperçus qu'il y avait des erreurs, ils se sont dit on va le laisser, ça participe quand même, c'est vraiment un nouveau point fort qu'on a de notre côté. Et justement, là où le bouquin se finissait vraiment de façon très pessimiste, le film se permet une autre ouverture. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. On s'est pas mal moqué de Keanu Reeves, puisque bon, Matrix, Speed, il joue pas dans les films intello. Il est vachement bon, parce que quand il s'agit de subir les actions, il est un peu fade, un peu évanescent comme ça, tout le contraire de Speed. Moi, je trouve qu'il est vachement bon quand il joue en dedans, en fait. Et là, c'est totalement le même esprit que Matrix. C'est un mec, voilà, il subit, il est un peu, son cerveau est complètement détruit. Voilà. Moi, je trouve que c'est un effet qui passe pas mal dans son jeu. Voilà, c'était Scanner Darkly, un film de Richard Linklater. Adapté de la nouvelle de Philip K. Dick, Substance Mort, Scanner Darkly, justement nommé en VO.
Et qui est sorti il y a une semaine à peu près.
Sorti il y a pas mal de temps déjà, oui.
Ouais.
Pas mal de temps, hein. C'était pas sorti la semaine dernière. Alors peut-être que vous ne le trouverez plus à Toulouse, il faut surveiller, peut-être qu'il passera à l'Utopia, peut-être. Voilà.
Alors évidemment, on repart dans le débat, puisque c'était quelque chose, on avait dit on va peut-être faire un top 5 des films de K. Dick adaptés au cinéma, est-ce qu'ils sont bons ou non. Pour moi, il y a un très très gros loupé, c'est Blade Runner, puisque la nouvelle était à chier, le film est trop bon, et plein d'autres choses. Et là aussi, on reparle avec du sport un peu en off, ça risque d'être long. Alors à la place, moi je vous propose de retourner à Tokyo, à l'ancienne. à Tokyo, à l'époque de Franquin, hein, du Rififi à Tokyo, par George Lucas. Non, George Bellerue. Le supplément week-end de Radio FMR 89.1 MHz et nous allons passer au cinéma avec du sport qui insiste non. En télévision.
À télé, oui.
À télévision. Avec du sport qui me trouble là en me disant zizi.
C'est Godard qui disait pour le cinéma on lève la tête, pour la télévision on la baisse.
Et c'est ça qui m'inquiète, c'est justement ce qu'il veut me faire passer.
Soever they blow. Hear me. heathens and wizards and serpents of sin, all your dastardly doings are past. For a holy endeavor is now to
oui, tu m'inquiètes.
Étonnant, non?
Oui, quand on a lu la pochette, oui.
Ah ouais, ouais, c'est notre pote Scott Bakula. Scott Bakula, le héros, entre autres, de la série Quantum Leap, Code Quantum, qui interprète la chanson, hein, et qui interprète d'ailleurs d'autres chansons. Il refait des reprises. Je vous avais déjà passé Imagine, je crois.
De Dean Stockwell.
Dean Stockwell, c'est Alphabet Rap. Il fait le morceau un petit peu rap comme ça, quoi, Dean Stockwell, sur le même disque. Et là, il s'agit de l'homme de la manche, tiré de la pièce du même nom, qui avait d'ailleurs été proposé en France et qui avait pas du tout marché. Ça avait été un flop. Hein, ça a été proposé par Jacques Brel, qui avait fait donc un spectacle sur l'homme de la manche. Et puis bon, ça avait vraiment pas trop marché. Enfin bon, c'était vachement controversé et tout. Pourtant, c'était quand même Jacques Brel et tout. Mais bon, ça allait à l'encontre de ce qu'il faisait d'habitude et tout. Il a voulu se lancer dans ce truc, et puis bon à l'époque ça avait pas du tout marché. Là donc c'était Scott Bakula, ça a rien à voir avec ce dont je vais vous parler de toute façon. Et je vais commencer par une petite revue de presse vite fait, avec déjà le nouveau numéro des Cahiers du Foot, magazine de foot et d'eau fraîche, avec,
ouais,
avec comme d'habitude toujours un titre excellent, Ligue 1 Football 0. Et avec des bonnes rubriques, dont une qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'abécédaire du Racing Club de Strasbourg. Il y a quand même une grosse coquille dedans, hein. C'est à propos de l'historique du nom du Racing de Strasbourg, hein, qui s'est appelé d'abord, au départ c'était le club de Neudorf, hein, c'est-à-dire un patelin qui est, enfin c'est pas un patelin, c'est un quartier maintenant de vachement huppé de Strasbourg. Ensuite Racing Club de Strasbourg, et eux ils disent Racing Strasbourg Pierrot Meno, et en juste en dessous il y a le blason RPSM. En fait c'est Racing Pierrot Strasbourg Meno, les gars, jusqu'en 76, puis ensuite ça a été le Racing tel qu'on le connaît. Et dans cet abécédaire il y a quelques trucs qui sont vachement marrants. Alors bon, l'abécédaire, hein, ok, toutes les lettres de l'alphabet. Alors C comme choucroute, plat typique de l'Alsace, introuvable au stade de la Meno. On a aussi A comme Alsace, zone d'action du Racing, bien que parisianisé jusqu'à la moelle, le Racing se prétend alsacien, ce qui veut dire du coin. Or quand le Racing gagne un titre, et c'est rare, ça fait moins de bruit qu'en ville que lorsque Galatasaray gagne l'UEFA. Oui, encore, qu'est-ce que je vous ai chopé encore?
Ouais, un peu comme Toulouse.
Ouais,
ah non,
le Racing a gagné plus de choses que, le Racing a gagné un championnat de France, quoi. Toulouse n'a jamais gagné de championnat, je te signale. A gagné une coupe, c'est tout, quoi. F comme football, et comme le dit Gunther Lineker, grand spécialiste alsacien du football, le football, c'est un jeu qui se joue à 11 et qu'à la fin, c'est jamais les Alsaciens qui gagnent. Avec l'accent, bien sûr, hein. Tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a les rubriques habituelles. Alors, ah oui, 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 bien sûr. Il y a l'élection traditionnelle du micro de plomb après chaque compétition internationale. Il y a le micro du plomb, et le micro de plomb qui est attribué au commentateur ou au consultant sportif qui a été le meilleur, enfin bon, façon de parler.
Hein. Le plus nul.
Ouais, le plus nul, quoi. Et là, je suis vachement content parce que moi, je disais qu'au niveau de la Coupe du Monde, Jean-Luc Haribar m'avait vachement botté, mais enfin bon, là, au premier degré, alors, hein, sans problème. Haribar ne figure pas parmi les 11 cités dans le micro de plomb. Alors, vas-y, dis-moi, à ton avis, qui c'est qui a remporté le micro de plomb?
Thierry Roland.
Ah non, Thierry Roland est à la 6ème place.
Je parierais
7% des voix.
Christophe Dugarry.
Dugarry n'est que 10ème, hein, avec 1,84% des voix. Moi j'ai trouvé pas trop mal, hein, Dugarry, quoi, franchement, quoi, dans les consultants. Ensuite, vas-y, continue.
Moi j'ai bien aimé Giroud, j'espère que c'est pas lui.
Ah, Giroud, il est 7ème. Ah. Hein, il est juste derrière Thierry Roland, hein, avec 6,92% des voix.
En fait, Jean-Michel Larqué.
Ah, Larqué, médaille de bronze, 3ème place. Avec 13% des voix.
Bon, Gilardi, je l'avais bien aimé.
Et Gilardi est en seconde position, avec 14% des voix.
Mérité.
Mais alors, le grand gagnant, quand même, hein, parce que bon, Gilardi est deuxième avec 14,65% des voix. Avec 33,08% des voix, Franck Leboeuf.
Facile, quand même. D'être bon.
Et on aurait pu faire un top 5, hein.
Ouais, mais bon, il y a également le match des Dream Team. Alors, ce mois-ci, c'est les Girondins de Borloo contre le Racing Club de Langres. Alors dans le style de...
Ah, ils viennent la comprendre.
Ouais. Alors du côté des Girondins de Bordeaux, par exemple, il y a Franck Tibéry, il y a Pasqua Nouba à l'attaque, hein, il y a Juppé, hein, ça, on s'en doutait. Et du côté du Racing Club de Langue, il y a Samuel Aïro, il y a Joseph Désiré Jox, il y a Pierre-Yves André, il y a facile, hein, tu vois, il y a des trucs vraiment bien. Et il y a également la vignette Kebab qui est ce mois-ci consacrée à un monsieur qui s'appelle Fabrice Fiorez. Ensuite, toujours des canards de foot, tiens, celui-là je te file. Ensuite, toujours canards de foot, c'est le SoFoot de ce mois-ci. Avec le titre excellent qui s'appelle Les 12 salopards. Alors ils sont ils sont en photo.
Materazzi, hein. Alors, il y est.
Materazzi, il avait quand même, oui il y est, mais enfin bon, il était quand même en couverture hein, du SoFoot précédent.
Oui c'est vrai. Hein.
Et lui, il a vendu. Est-ce que tu le reconnais lui tout en bas là? Ça c'est un vieux, c'est la vieille génération quand même. Et puis bon, sa tronche a un peu changé. Bah, il a rasé la moustache. Mais il est très très connu en France.
Ah oui, c'est hyper connu, oui, c'est hyper connu. Enza Ratschmaurer.
Exactement. Voilà. Mon préféré, qui est d'ailleurs un excellent mec, hein, vraiment. Voilà. Enfin, et dans ce numéro, il y a une excellente interview d'Eduardo Noriega, qui est un très bon acteur que j'aime bien. Oui, quoi. Il y a également une interview de Didier Deschamps. Enfin bon, on laisse tomber, quoi. Il y a également, bon, bien sûr, le portrait des 12 salopards. Hein, alors les 12 salopards, il y a Di Canio, Rooney, Cyril Roll, Jurietti pour les Français, Van Bommel, Boularouz qui a vraiment qu'on a découvert pendant le dernier mondial. Hein, je sais pas si tu te rappelles là contre le Portugal, Boularouz excellent quoi, quand il a laté Cristiano Ronaldo. Bon à la limite on était content, mais bon quand même c'était quand même assez dur. Mais très précoce hein, le bonhomme. Et donc parmi les
Gascogne.
Non, les doux salopards, genre les mecs qui vont, tu sais, Gravesen, Gabriel Anse. Rooney quoi, genre je m'essuie les crampons sur les roupettes de Carvalho, des trucs comme ça quoi, enfin bon tu vois vraiment les gros salopards quoi. Et les rubriques habituelles.
Roy Keane,
non. Par contre il fait partie du top 10 de ce mois-ci, hein, une nouvelle rubrique qui s'appelle le top 10 hein, des footballeurs qui ont mieux compté. Roy Keane est en 10e position et c'est toujours Samuel Eto'o qui est en tête. Et il y a dans le même style hein, que dans le cahier du football, le 4-3-3. Et là, 4-3-3, hein, c'est une équipe imaginaire. Et là, eh bien, ce sont des héros de séries télé qui font le 4-3-3.
Ils nous ont piqué l'idée.
Ah ouais. Et là, alors avec comme avant-centre, là est facile, Jack Bauer, bien sûr, hein, et John Locke. Là, quand même, il fallait le trouver. Hein,
bah, il est vieux et puis il boite. Hein.
Mais non, mais justement, il a retrouvé ses jambes.
Oui, mais là, il reboite à nouveau.
Et ouais. Ensuite, comme milieu de terrain, bien sûr, Christian Troy. Hein, ça, c'était évident.
Ouais.
Christian Troy et Tony Almeida, excellent. Ouais. Gabriel Solis également, hein, Desperate Housewives en milieu de terrain. Milieu de terrain défensif, Jarod, le caméléon. Et en ligne défensive, nous avons Seth Cohen en défenseur central de Newport Beach, associé à Jill Grissom des experts, c'est normal. Du côté des latéraux, Michael Scofield sur la gauche et Clark Kent sur la droite.
Et c'est pas joueur de couloir.
Ouais. Et bon, pour qu'il y ait quand même un Français, eh bien, on a mis dans les buts Roland Marcy.
RIS?
Non, je dis un Français, une série française, d'ailleurs une soap française, Plus belle la vie, hein, le mec qui tient le bar là.
D'accord.
Ouais, si, très bon. Dans tout ça donc, dans le numéro de ce mois-ci de SoFoot, qui coûte toujours que 2,90€, donc ça vaut le coup. Ensuite, on a le numéro de Technicart qui s'appelle avec un gros titre.
C'est la même équipe. Hein.
Pouvoir nerd. Tiens, Xavier, c'est pour toi.
Tiens, il y a tes lunettes. Tu sais,
scotch. D'enfoiré.
Et je glisse tout de suite à la page média sur la fin avec la rubrique série télé. Et la série du mois, c'est My Name Is Earl. On en reparlera. Elle a été super nominée, super récompensée au dernier Emmy Award. Et elle va débarquer à la fin du mois, donc sur les télés françaises. On y parle également de la saison 3 de Desperate Housewives, qui paraît-il est c'est du n'importe quoi. On y parle des Nus, hein, dont je parlais la semaine dernière, et d'une nouvelle série dont je vous reparlerai parce que bah elle est pas encore à l'antenne. Ça démarrera à la fin octobre. C'est État d'alerte, une série anglaise qui parle de terrorisme. Et il y a aussi un crash test sur trois séries actuellement diffusées à l'antenne. Surface, diffusée par Canal+. DOS, c'est-à-dire Division des Opérations Spéciales sur France 2. Alors là, j'ai vu l'épisode dimanche dernier, je t'assure. Alors là, tu le crois pas, quoi. Vraiment, Tu le crois pas, mais vraiment tu le crois pas. Benjamin Bratt, il est athée, hein, non, je ne crois en aucun dieu et tout. Et pourtant, c'est quand même la Bible qui va le sauver. Enfin bon, laisse tomber. Également, le titre français, c'est Mélina entre deux mondes, mais le titre original, c'est Ghost Whisperer, la série dont j'avais parlé, avec Jennifer Love et Witt. Tout ça, donc, et plein d'autres choses, hein, le truc sur les nerds, bien sûr. Et les rubriques habituelles en début, ça c'est dans le Technicart de ce mois-ci. Voilà. Maintenant parlons un petit peu de télé avec c'est un bordel, j'ai très mal préparé ma rubrique, hein, je vous mets tout de suite à l'aise. Alors avec le traditionnel Prison Break bien sûr de la semaine. Alors là ça va commencer à chier grave. Déjà ça a commencé à chier grave dans le dernier épisode où les deux agents qui sont chargés d'éliminer tous ceux qui seraient au courant de l'espèce de conspiration commencent à savoir pourquoi, car dans le dernier épisode qui est passé jeudi dernier, eh bien on apprend que la vice-présidente a décidé de se présenter à la présidentielle donc des États-Unis, et on sait que c'est parce qu'il y a eu ce gros détournement de fric qui a été caché, on sait pas trop comment, elle va peut-être réussir à gagner ses élections. Parce qu'il faut savoir que généralement les élections, plus t'as de pognon aux États-Unis, c'est toi qui gagne. Hein. C'est celui qui a le plus gros budget généralement.
Je te rassure, en France aussi. Hein. Quels ont été les deux candidats avec la plus grosse fortune personnelle? Ah bah les mêmes que ceux qui sont arrivés au second tour en 2002.
Absolument. Dans Prison Break donc également de la semaine prochaine, on va spoiler un petit peu, hein, tranquille, hein, facile. Avec donc les épisodes 12 et 13 hein, qui passeront jeudi prochain à 20h50 sur M6 dans le numéro 12. Du côté à l'intérieur de la prison, Bellix, c'est le chef des gardiens, tente de faire parler Twiner. Twiner, c'est le jeune mec qui est arrivé il y a 2-3 épisodes et qui parle comme les bacs, tu vois quoi. Il fait des raps et tout, s'amuse à faire du rap et tout. Il se fait balancer par tout le monde, hein, bien sûr. Les blacks parce que bon, il les singe. Les blancs parce que bon, bah c'est vraiment rigolo et tout. Et bon, il s'avère que dans le dernier épisode, on commence à voir qu'il a quelques petits talents cachés qui vont servir justement Michael Scofield. Enfin, ça, vous l'avez vu si vous avez vu le dernier épisode. Alors, dans le numéro 12, donc, le chef des gardiens tente de faire parler Twiner en lui promettant quelques hamburgers. Michael annonce le départ pour le soir même, mais Lincoln est envoyé en cellule d'isolement après avoir s'être violemment confronté aux gardiens pour protéger le tunnel. De plus, T-Bag, alors spoiler, T-Bag tranche la gorge d'Abruzzi, car il y a, et ça on l'a appris à la fin du dernier épisode, il y a un mec de trop hein, par rapport au plan d'évasion, il y en a un de trop par rapport au timing hein, qui est prévu, ils ont que 18 minutes pour s'évader, et là il y en a un de trop, donc T-Bag va se charger de dégommer Peter Stormer, l'acteur qui joue Abruzzi, qui est le patron de la mafia, enfin à l'intérieur de la prison. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Kellerman et Hale, c'est-à-dire les deux agents secrets, agents spéciaux, retrouvent LG alors qu'il vient voir la tombe de sa mère, mais elle est pétrie de remords. Il téléphone à Veronica et lui promet des preuves de l'innocence de Lincoln. Et dans l'épisode suivant, le numéro 13, The End of the Tunnel, le bout du tunnel, Michael à Fox River, Michael réussit à faire envoyer Lincoln à l'infirmerie après lui avoir fait passer un cachet qui le rend malade. Les évadés prennent le départ, mais le tuyau qui relie les sous-sols à l'infirmerie et qui aurait dû être détruit par les produits chimiques a été remplacé. Mince alors. À l'extérieur, elle explique à Veronica que Stedman, le frère de la vice-présidente, n'est pas mort en fait. Et l'agent Kellerman abat ensuite elle à cause de sa trahison. Donc là, ça y va très très fort. Alors à propos de Prison Break aussi, il faut dire quand même que c'est pas filmé n'importe comment. Hein. Y a quand même des types qui ont fait leurs armes, on va dire, même au cinéma. Hein. On va pas citer Brett Ratner parce que bon, il est producteur et exécutif. C'est lui qui réalise le pilote. Donc généralement, c'est lui qui imprime un petit peu la vision, la photo, le style et tout ça. Hein. Ok, les autres, ils se chargent de suivre un petit peu à la lettre ce qui a été fait au départ. Mais bon, il y a quand même des réalisateurs qu'on connaît, hein, qui ont tourné pour les grands écrans. Randall Zisk, il y a également Dwight Little. Il y a Bobby Roth. Il y a également Kevin Hooks, hein, qui en réalise plusieurs. Fred Gerber également. Fred Gerber, hein, qu'on a déjà vu réaliser des épisodes pour NCIS, me semble-t-il. Et également pour d'autres séries. dont il me semble New York District, Greg Gaitanès aussi, qui est réalisateur d'un épisode de Prison Break.
Et sinon, on peut rebondir sur ce que tu disais sur les nerds, hein, parce que là il y a un classement.
Ah bah oui, dans le classement des nerds en plus, hein, ça
avec
fait...
Xavier.
Il y a
le classement des 9 nerds les plus... ils sont riches, la power list, ils sont nerds, ils contrôlent les grandes marées de la pop culture.
Ah bah ouais, alors là, facile.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils disent que aux États-Unis, les geeks, ce sont des gentils qui ont juste sont fans de sous-culture ou de contre-culture, alors que les nerds sont juste informatiques, alors qu'en France, c'est l'inverse.
Ouais, mais bon, laisse tomber.
Alors c'est assez particulier parce que geek et nerds n'ont pas la même puissance suivant que c'est la côte est ou la côte ouest des États-Unis. Donc déjà. Ah, ouais. C'est un peu problématique. C'est-à-dire, nerd, c'est vraiment mal vu quand c'est à New York, tandis que à Los Angeles, c'est les geeks qui sont mal vus. Et nerd, c'est l'état normal. Ouais.
D'accord. Voilà. Alors.
D'accord.
Attends, avant le top 5, il y a les autres classés 9e. Bon, là, j'aurais mis plus haut Kevin Smith.
Bah ouais, mais bon, ils disent que c'est un branleur, hein, qu'il a fait qu'un bon film. Enfin bon. Il y a des fois des avis qui sont pas forcément... hein, bon, on n'est pas d'accord sur tout. Hein, bah,
d'accord.
Pour heureux, quoi.
Ouais, c'est vrai. 8e, Jack Black. Il aime le cinoche, la télécomique et le rock'n'roll. Ouais, bon.
C'est un geek. Ouais, okay. C'est un geek, c'est gentil.
Harry Knowles, en 7e, avec AintItCool.com, le Texan est devenu un rouage d'Hollywood. Ouais, bah, moi, je connais pas trop. 6e, Quentin Tarantino.
Ah, lui, vrai geek.
Lui, quand même, il aurait dû être plus haut, quoi, à mon avis.
Ouais.
5e, alors lui.
Attends,
alors,
voilà. Oh.
Qui dit 5e?
Top 5!
Tu t'es planté!
5!
Alors, plante!
Lui,
vas-y.
Oui, alors par contre, là, le mec, c'est parce qu'il est vachement connu en ce moment, c'est J.J. Abrams. Alias, Lost, MI3. Voilà.
Bah, je veux bien croire, hein.
Numéro 4!
Pixar, John Lasseter.
Ouais. Numéro 3!
Alors lui, je dis bravo, Hideo Kojima, numéro 3.
Ah, ouais,
je suis en plein Metal Gear, ce gars est un dieu.
Ah, c'est clair, c'est vraiment un geek en plus, il est vraiment grave.
Numéro 2.
Joss Whedon.
Buffy
et plein de comics.
Ultimate X-Men.
Et enfin...
Numéro 1.
Alors là, on disait que c'était facile. Quand tu penses geeks dans voilà, Power List, le geek le plus puissant aujourd'hui.
Bill Gates.
Non. C'est dans la pop culture.
Steve Jobs.
Non. C'est il est cinéaste. Le geek le plus célèbre du cinéma en ce moment.
Allez.
Il est barbu, il a perdu plein de kilos.
Eh oui.
Il a fait une
Ah bah oui, forcément. Eh oui. Et je viens d'oublier son nom.
Peter Jackson.
C'est quel con. Ah oui, là-dessus, c'est clair que c'est le geek ultime. Classement effectué par la rédaction de Technic Arts dans le numéro daté d'octobre, le pouvoir nerd.
On termine avec Prison Break. Je vous disais la semaine dernière que... Non, c'est pas grave. Je vous disais la semaine dernière, c'est bien parce que là on va devenir un peu grave quand même, je vous disais que la prison, enfin la cellule dans laquelle se trouve Lincoln Burrows, donc Dominic Purcell, condamné à mort, et la cellule s'est tournée dans une prison qui est maintenant désaffectée, hein, la prison de Joliet à côté de Chicago, et c'est la cellule dans laquelle a vécu un tueur en série assez célèbre qui s'appelait John Wayne Gacy, hein, qui dans sa demeure de Chicago, il a assassiné, il a violé et torturé 33 adolescents. Il a enterré les corps ensuite sous sa maison, dans son jardin. Il était entrepreneur de travaux publics, hein, il retapait des maisons, des petites choses comme ça. Donc soit il les chopait dans la rue comme ça, genre drague homosexuelle classique, soit il les draguait carrément, il draguait ses employés, quoi, tu vois, carrément, quoi. Et bon, bah, il avait un système de drague et un système de viol, enfin pour les capturer très très au point, hein. Il n'a jamais avoué vraiment ses meurtres. Il a été condamné Et condamné en 79, il a été chopé en 79, voilà, il a été condamné en 83 et il a été exécuté en 94. Et durant toute sa période en prison, donc dans cette cellule, hein, cette fameuse cellule, eh bien, il a commencé à dessiner, à peindre, enfin bon, surtout des trucs qu'on pourrait qualifier d'art naïf. Et ses œuvres se sont vendues par la suite, donc elles sont devenues des œuvres d'art, hein, qui sont devenues un petit peu des collectors, un petit peu macabres. Elles sont vendues relativement cher quand même, hein, tu vois, pour ce que c'était. Hein. Parce que bon, genre art naïf, pour moi, c'est genre des dessins faits par des gosses, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Un peu le style, tu vois, le genre, quoi. Bon, voilà. Voilà qui était John Wayne Gacy. Et il faut dire que Dominic Purcell, quand on lui a dit qu'il fallait qu'il tourne dans cette cellule et tout, qu'il connaissait le passif un petit peu, parce que bon, c'est quand même un serial killer assez connu aux États-Unis. Un excellent téléfilm a été fait d'ailleurs, dont j'avais déjà parlé, et le personnage de John Wayne Gacy était interprété par Brian Dennehy. Donc Denis Purcell était vachement flippé, enfin bon, ça le faisait vachement flipper de tourner à l'intérieur et tout, parce que bon, bah, il trouvait qu'il y avait des ondes qui n'étaient pas forcément positives. Voilà donc pour Prison Break. Sinon, il y a des nouvelles chaînes de télé bientôt sur vos réseaux. Alors, ah, ça, des chaînes dont on va pouvoir se passer, hein, c'est dans la série les chaînes de télé des clubs de foot. On a déjà OMTV, on a déjà OLTV. Il va y avoir.
Il va y avoir TFCTV.
Ouais, mais attends. Ça, ça va se faire. T'en fais pas. Ah. Et une nouvelle chaîne qui s'appelle 11EO, mais ça va être la chaîne de deux clubs, à savoir le club de Saint-Étienne et le club de Lens. Rien à voir a priori. Mais en tout cas, on essaiera d'éviter quand même, car ça a été un petit peu initié par un mec qui s'est fait virer de toutes les chaînes pratiquement dans lesquelles il a officié, Charles Bietri. Oh, une chaîne qui va certainement plus nous intéresser, nous les geeks ou nous les nerds, c'est la chaîne des jeux télé. Ouais, une chaîne des jeux télé.
On va Play One.
Alors, ouais, c'est ça, ouais, c'est Play One.
Oui, ça m'étonnerait que TF1 ait pu utiliser ce nom, puisque c'est le nom déjà d'une émission sur notre chaîne.
Pour l'instant ça s'appelle Play One, hein, mais de toute façon le lancement est prévu le 3 octobre prochain, donc c'est la semaine prochaine. Alors donc rediffusion des vieux jeux cultes, alors bon, ça va faire plaisir de revoir l'Académie des Neufs, Anagram, des trucs comme ça, rediffusion des émissions de télé-réalité les plus récentes, hein, tous les Koh-Lanta, Île de la Tentation, tout ce bordel là. Et je sais pas si ça a remarqué, mais en ce moment il y a des émissions que j'appelle bouche-trou, mais qui sont de plus en plus à l'antenne, que ce soit par exemple sur TPS Foot, que ce soit sur RTL9, où on propose des jeux en direct où les gens téléphonent, tu sais quoi, et bon, genre retrouver avec une espèce de figure géométrique un petit peu compliquée, et tu dois découvrir combien il y a de triangles dans cette figure. Ah oui, et puis t'as la nana qui est là, qui est chargée de faire de faire durer le suspense et tout, de garder les gens et de faire téléphoner au maximum et tout ça. Tout ça, ça va être sur cette nouvelle chaîne, donc à l'antenne, donc à partir de la semaine prochaine. On a pratiquement enfin gagné cette chaîne que Chirac appelait de ses voeux depuis je sais pas X temps, et puis que ça avait été le serpent de mer incroyable avec autre chose, mais là on va avoir une CNN à la française. Pas avant début décembre quand même, ça va s'appeler France 24.
Ce qui fait à peine penser à BBC News 24 et à N24 qui est une chaîne allemande.
Alors avec comme patron de rédaction Grégoire Degnaud, avec Guillaume Durand à l'antenne tous les dimanches soirs, pour animer une émission, une quotidienne culturelle. Et moi j'aime bien parce que c'est la nana qui fait Ubique sur TV5, je crois.
Sur France 5.
Sur France 5. Elisabeth Chungi, donc.
Qui fait aussi des sujets pour France 3 d'ailleurs, il me semble. En matinée.
Peut-être. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Elle est pas mal, quoi, de toute façon.
Et c'est vrai qu'elle officie aussi sur TV5, pardon. Elle présente aussi des fois le journal.
Ouais, sur TV5 également. Et il y a également, pour les bricoleurs, pour tout ça, du côté de chez vous, TV. Mon gars, qui va paraître à la mi-octobre, là. Hein. Alors, reportage, module pratique, rediffusion. Alors, c'est par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est parrainé un petit peu par Le Roi Merlin. Télite, pub, là, bon, bah, ok, d'accord, hein. Tant pis. Il va y avoir, par contre, la diffusion d'émissions anglaises qui sont pas mal, dont celle qui s'appelle Changing Rooms. Alors le concept est vachement simple, hein, c'est deux couples, enfin deux familles, hein, qui échangent leur maison et qui retapent la maison de l'autre. hein, selon leur goût, aidé par cela par un architecte d'intérieur et par une équipe complète, hein, de mecs qui viennent avec le matos et tout.
Je crois que c'est Channel 4 qui le produit.
Voilà, là, et ça, l'émission est pas mal, hein, franchement, elle est pas mal du tout. Donc tout ça, donc ça va être dans du côté de chez vous, TV.
Et à propos de France 24, juste une chose, c'est qu'ils sont fait griller la priorité par les Chinois, puisqu'il y a une chaîne d'information continue francophone qui émet en continu, qu'on peut capter en France, qui s'appelle CCTV E et F, et donc avec un habillage, là tu sais que c'est pompé sur CNN, peut pas te tromper, mais c'est l'habillage du consortium chinois de télévision Chine Communiste TV. Mais c'est assez hilarant à regarder, hein, parce que putain, la propagande qu'il y a dessus, wow.
Ouais, non, ça dépend, hein. Donc, CCTV 5, enfin, moi j'en ai deux. CCTV 5, c'est vraiment la propagande avec le mec ou la nana, hein, qui présente les infos et tout. C'est vachement straight et tout. CCTV 9, qui est plus axé sur les reportages.
Mais là, je te parle d'une chaîne exclusivement francophone par les Chinois.
Alors sinon, du côté des séries, demain c'est la dernière de New York Cour de Justice. Alors c'est une série à suivre, c'est dommage, il n'y a eu que 13 épisodes, ça a marché. Ouais. Parce que c'est encore une série dérivée de toute la série créée par Dick Wolf, le New York District étant la plus connue. Hein. Il y a eu que 13 épisodes, ça a pas marché. Donc c'est le dernier épisode demain, hein, sur TF1 à partir de 15h10 avec Bébé Neuwirth, Fred Dalton Stonson, qui est également présent, hein, dans les autres séries. Hein, c'est le procureur, hein, c'est le patron, hein, qui dit au substitut ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qui donne son avis. Et en fait, Fred Dalton Thompson n'a pas été qu'acteur au départ. Eh bien, Fred Dalton Thompson était dans la justice, c'est-à-dire était vraiment procureur.
D'accord.
Il s'est présenté au poste de gouverneur. Il a été gouverneur pendant 4 ans de je sais plus quel état,
je crois
le Connecticut, un truc comme ça. Après, il a retrouvé son poste donc, et il est passé donc de l'autre côté, c'est-à-dire il est devenu acteur en interprétant un rôle qu'il connaissait par cœur vu que c'était son précédent métier. Donc il y a également il y a également dans cette série Kirk Acevedo, hein, qui joue le rôle du latino de service, enfin, le chef des latinos dans la série Oz, hein, qui a un rôle absolument magnifique dans cette série. Celui qui, à un moment, il boit sa pisse, tu sais, quoi. Enfin, un truc monstrueux, quoi. Qui s'évade et puis qui est repris. Et c'est un des rares, d'ailleurs, dans Oz qui s'évade, qui se fait reprendre, quoi, au bout d'un moment. Il y a également Scott Cohen, hein, qu'on a vu dans le rôle d'un mec un petit peu véreux dans NYPD Blue. Également dans le rôle principal du 9e Royaume, hein, une mini-série excellente, hein, qui était passée à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Sinon, au niveau des séries, c'est ce soir la 8e et la dernière saison de Charmed qui démarre sur M6 avec 3 épisodes là, comme ça, dans la gueule. Et
vide,
une nouvelle nana pour les sœurs Halliwell.
Encore une sœur?
Alyssa Milano, vous la connaissez. Rose McGowan, vous la connaissez. Holly Marie Combs, vous la connaissez. Mais Kale Cuoco, voilà. Eh ben, il manquait une blonde. La voilà. Donc, dans la dernière saison de Charmed, à partir de ce soir sur M6, 20h50, 3 épisodes donc. Et je terminerai avec l'émission de ce soir sur Arte qui s'appelle Cosmic Connection, un concept super, super original, vraiment, hein, une émission qui est faite en direction des gens qui sont pas comme nous, des gens qui viennent d'ailleurs. Regarde le doigt,
maison.
C'est sur Arte à partir de 20h40 donc, et c'est une émission qui propose de présenter aux extraterrestres, aux martiens, à ce que vous voulez, aux vénusiens, ce que sont les humains, ce qu'ils produisent, ça va être très intéressant parce que, eh bien, ça avait déjà été fait dans les années 70 puis les années 80, la sonde Pioneer qui avait envoyé un message universel
sur un laser disque,
ça c'était les prémices, mais là ça va être boosté, ça va être envoyé à la vitesse de la lumière, s'il vous plaît, en direction de la planète ou de l'étoile qui s'appelle Erai et qui est située à 45 millions d'années-lumière. Et donc, petit calcul, facile, ça va mettre 45 ans pour parvenir là-bas.
45 années-lumière. C'est pas 45 millions, c'est 45.
45, oui, pardon, excuse-moi.
45 millions, t'es au-delà de la galaxie.
Ouais, 45. Donc, Alors donc il va y avoir des extraits de films cultes, il va y avoir des séquences animées, des séquences expérimentales et tout ça. Donc lancé à la vitesse de la lumière, présenté par Marc Larnoudi et Émilie Rochefort.
Presque à poil,
parce que bon bah hein, c'est un programme qui est diffusé en première partie de soirée à 20h40. Donc voilà, il y aura un petit clash quand même. Hein, d'accord. Tout ça c'est ce soir à 20h40 dans le magazine de Arte. Et je termine avec l'événement qui va se passer ici à Toulouse ça s'appelle les 24 heures de télé préparées par l'INA. Il faut savoir que l'Institut National de l'Audiovisuel a une petite succursale
à Balma.
À Balma, tu rigoles, c'est à Maringo, c'est en dessous, en bas.
Ah bon, je me suis trompé.
T'es jamais descendu, hein. C'est pour ça on passe toujours. C'est vrai, quand tu passes sous le radiateur là, qu'il y a à la bibliothèque Cabanis, là, le radiateur, tu passes comme ça, tu vas sur la place, là, No Man's Land, mais quand tu descends là, hop, tu descends l'escalier et tout, t'as également les studios de TLT et tout, mais t'as un petit coin qui c'est une succursale de l'INA. Et donc, il va y avoir une petite rétrospective avec un petit film de 1h10, un cocktail des grands moments de télé qui ont marqué, le fameux interview de Georges Marchais, le discours de Martin Luther King, Jane Fonda, militante contre la guerre du Vietnam, et Saint-Colonna à la Une, le petit rapporteur, numéro 1, enfin plein de trucs comme ça. Ça se passe à la médiathèque Cabanis, donc ce samedi à 14h30, hein, donc bientôt, là, un petit peu moins d'une heure. À 17h également et dimanche à 21h. Et ensuite, c'est délocalisé à Blagnac, au Cinéma Rex, le 30 septembre. Donc, c'est demain, hein, je crois, 30 septembre, me semble-t-il.
C'est aujourd'hui.
Au Cinéma Rex, donc, à 21h. Le 1er octobre, demain, à 15h. À Sainte-Gabelle, ça sera Gérard Philippe, aujourd'hui, à 18h30 et 21h. Et demain, à 18h30. À l'Union, au Cinéma Le Lumière, demain, à 21h, et à Rium, à la MJC, cet après-midi à 15h30, et à Saint-Lys, à la MJC, le 7, c'est loin Saint-Lys, alors pour le temps qu'ils ramènent les bobines là-bas, il faut bien une semaine, le 7, donc, à 14h. Voilà, donc, ce festival d'images proposé par l'Institut National de l'Audiovisuel, et avec, du côté de Toulouse, la présence de gens qui sont vachement côté qui connaissent vachement la télé et tout. Déjà on a un des frères Amokrane et on a également Claude Sicre, hein, qui lui tous les soirs devant son poste de télé, il sait de quoi il cause, t'en fais pas, hein, il connaît tout à tout quoi, de toute façon il y a pas de problème, il va t'apprendre ce que c'est sans problème.
Et c'est sur ce chambrage de troubadour quasi fabuleux se termine le supplément week-end. Je crois que Thomas d'ailleurs a un procès verbal assez costaud. Avez manqué le début de l'émission, qu'est-ce que vous avez loupé?
Non, par rapport à d'habitude, ça va. On a eu un débat acharné sur la conduite à droite ou à gauche à bord d'une voiture, puisqu'on a été bien repris par du sport en off. On a eu un reportage en direct différé du printemps de septembre. On a eu de la BD japonaise, un top 5 des nerds, une adaptation ciné de Philippe K. Dick et des séries télé plein, avec une revue de presse assez conséquente aussi sur le foot.
Et tu as oublié le nouvel habillage.
Et le nouvel habillage.
Qui d'ailleurs est en fait une adaptation disco de Star Wars, qui à l'époque s'était bien vendu et qui depuis s'est complètement oublié. On va pas s'en vanter.
Ah, je trouvais aussi qu'il y avait un côté SF dans la musique derrière.
Je t'avais pas dit. Hein. Ok, bon, et ben nous.
On replie, on
change de champ de caméra et tout le reste. Et on se donne rendez-vous samedi prochain pour la suite du printemps de septembre. Et peut-être d'autres choses, je suppose.
On va rembarquer la caméra familiale et on vous présentera peut-être un bidouillage qu'on a fait avec. Nous ne sais pas, on va aller grailler.
Voilà, et ce soir, on sera à une soirée organisée par une radio concurrente. Voilà, c'est au Jardin Raymond 6, à côté donc des abattoirs. Et donc, il s'agit d'un groupe belge pop qui est connu pour savoir appuyer sur play sur leur logiciel de montage et faire semblant de mixer. On y croit. Bon, voilà. Ok, j'ai été méchant, mais bon, j'irai avec beaucoup de plaisir. Je vous laisse de la place à du sport. Ciao, bye, see you.
Ciao.